La brochure.
La brochure.
La brochure.
La brochure.
La brochure.
Et bonjour.
Bonjour, bonjour.
On est retourné à faire une autre brochure. Là, ça fait froid. Oui. Il y a un petit vent. On est dans la cabane. Et bon.
On a un bon poêle qui chauffe à côté, ça va aller.
Ouais, c'est quand même l'hiver de l'Aveyron, non?
C'est sûr.
Voilà, c'est tout. Eh bien, la brochure, elle a comme titre « L'enfance comme catégorie socialement dominée ». Et vous pouvez la trouver sur
feministe@no-log.org.
Et on commence à vous lire jusqu'à un petit introduit fait pour la personne qui l'a écrit cette brochure. C'est quoi cette brochure bizarre? Ce texte est issu d'une recherche sociologique réalisée dans un cadre universitaire. Il a été raccourci, les parties les plus académiques mais semblant un peu lourdes. Le style peut paraître un peu antello, je suis désolé mais je ne me sentais pas le courage de tout retaper. La première partie, notamment sur les bases théoriques, peut être particulièrement pénible. J'ai hésité à l'enlever, mais j'ai trouvé qu'utiliser des concepts sans les définir précisément était un peu limite. Par contre, elle peut, à mon avis, être zappée sans trop de problèmes. Donc, ne vous forcez pas, passez directement au vif du sujet. Dans ce style universitaire, il manque cruellement toute ma rage, tous les sens politiques que cette question de l'enfance revêt pour moi. S'il vous plaît, en lisant, essayez de vous l'imaginer.
Au commencement était Firestone. Cette recherche trouve sa source, son point de départ, son élément déclencheur dans un livre, dans un hasard finalement. Préoccupé par des questions sociologiques liées au genre, politiques liées au féminisme, je trouvais un vieil ouvrage intitulé « La dialectique du sexe », dont l'auteur m'était parfaitement inconnu. Dans ce livre, un chapitre intitulé « Pour l'abolition de l'enfance » déclencha, sans le savoir, le processus qui me mena ici. Au fil de ces pages, tout un ensemble d'éléments, de certitudes, de représentations sous-jacentes qui m'avaient toujours semblé si familiers, bien que douloureux, mais soudain apparus comme éminemment problématiques. Pourquoi l'enfance? Pourquoi l'autorité? Et surtout, comment? Au commencement, sûrement, bien avant ça.
L'enfant heurté par le monde des adultes, par ses rappels à l'ordre, par ses injonctions à la soumission. L'enfant rebelle, violente, insolente, écorchée vive, selon leurs mots à eux et elles, leurs mots d'adultes. L'enfant réprimé, puni, renvoyé, frappé, jugé, méprisé. L'enfant qui ne comprenait pas pourquoi d'autres pouvaient décider à sa place, qui ne voyait pas pourquoi leur obéir. L'enfant que j'étais, celle que je suis encore au fond, mon moteur. L'enfant que chacun et chacune, quelque part en lui et elle, l'enfant qui partout ce monde essaie d'étouffer, de contraindre, de dresser. On va commencer la première partie. Le titre, c'est la différenciation des catégories, un statut spécifique à l'enfance. Bref historique de l'émergence du statut spécifique de l'enfant. Cette partie tente, sur la base de travaux de P. Harrier, de montrer que la distinction entre enfant et adulte est une construction sociale qui a considérablement évolué au cours des siècles. P. Harrier, le premier, a mis en avant l'idée de l'émergence du sentiment de l'enfance, expliquant que celui-ci, tel qu'on peut le connaître aujourd'hui, n'existait pas au Moyen-Âge. L'examen des tableaux de l'époque en donne confirmation. Les enfants y sont représentés comme des adultes miniatures, sans caractéristiques distinctives spécifiques autres que leur petite taille. Au Moyen-Âge, donc, la vision de l'enfant hérité de l'Antiquité la dépeint comme un ou une être mauvais ou mauvaise, porteur ou porteuse du péché originel, qui constitue une charge pour la famille jusqu'à ce qu'il ou elle soit en âge de travailler et de participer ainsi à l'économie domestique. Une seconde conception émerge peu à peu, issue du christianisme, insistant sur la pureté et l'innocence de l'enfant. Et avec elle apparaît le souci de protection de l'enfance. interdiction de l'avortement et de l'infanticide par l'Église dans le IVe siècle. La création et la généralisation des sacrements religieux spécifiques à l'enfance, comme la première communion, montrent bien cet intérêt particulier porté à l'enfance.
L'histoire du développement du sentiment de l'enfance, d'une considération spécifique apportée à l'enfant, est au-delà des images religieuses à mettre en parallèle avec l'histoire de l'école et de l'institution scolaire. L'école est effectivement associée à la construction sociale de l'enfant, étant donné que l'État, au milieu du XVIIIe siècle, a institué pour la première fois la libération des activités du travail productif en faveur d'une partie du groupe générationnel le plus jeune, qui s'est progressivement élargi à toute la génération avec l'institutionnalisation de la scolarité obligatoire. En effet, si au Moyen-Âge, l'éducation se déroule dans la cellule familiale et est essentiellement axée sur l'apprentissage du métier paternel, les réflexions des pédagogues et des philosophes mettront l'accent sur la spécificité de l'enfant et la nécessité de distinguer les différents stades de l'enfance afin de donner à chacun, chacune, une éducation adéquate.
L'époque des Lumières est celle d'une nouvelle approche de l'enfant, notamment avec la publication d'Émile ou de l'éducation de Jean-Jacques Rousseau en 1762, et qui reste aujourd'hui un ouvrage de référence en matière d'éducation, dé par les idées novatrices pour l'époque qu'il développe en faveur de l'enfant. L'ouvrage s'adresse à un lectorat des mères et des précepteurs pour leur donner conseil sur le développement de l'enfant en sachant répondre à ses besoins réels. Rousseau se situe avec cet ouvrage en précurseur des recommandations qui se sont succédées à l'époque de la Révolution française, fondée sur l'idée du progrès, à savoir que la connaissance libérait l'homme de sa condition d'asservissement et que le progrès de l'humanité tiendrait à la diffusion du savoir. L'éducation devient alors un mot d'ordre et acquiert une place de choix dans les réflexions. On serait alors tenté de dire que ces travaux ont fourni les terreaux pour le développement des travaux sur les pédagogies. Émerge alors le sentiment que l'avenir de l'humanité tient à la formation des enfants, qui doivent être pris en charge par la société, notamment par l'institution scolaire.
Les enfants des classes populaires, tant qu'ils, elles, ne pouvaient pas travailler, se trouvaient, en quelque sorte, livrés à eux-mêmes durant la journée. En outre, un grand nombre d'enfants étaient abandonnés et se retrouvaient à vagabonder. C'est contre ce vagabondage et cette errance enfantine que des écoles ont été mises en place. Pour faire face à l'oisiveté des pauvres, l'école caritative, gratuite, a été mise en place dès la seconde moitié du XVIIe siècle, avec les écoles des frères qui, en plus d'éviter la fainéantise des enfants, cherchaient à former des bons apprentis, une main-d'œuvre qualifiée. L'école s'est développée pour devenir une institution étatique et laïque. L'Église, tout comme l'État, se soucie de plus en plus de l'éducation des enfants, comme en témoigne la création des écoles maternelles en 1882. Au cours du XXe siècle, l'âge d'entrée à l'école s'est successivement réduit. Avec le développement du travail féminin, l'enfant s'est désormais couramment mis en crèche dès son troisième mois, soit à la fin du congé de maternité.
Popularisation au cours du XVIIe siècle de la mise en nourrice, si elle est parfois analysée comme un abandon et une marque d'indifférence des parents vis-à-vis de leur enfant, cette pratique provoquait la mort de 25 à 30% des nourrissons séparés de leur mère, ne constitue pas moins une pratique consacrant la spécificité de l'enfant. De même que les abandons, fréquents jusqu'au XVIIIe et XIXe siècle, traduisent la volonté des parents pauvres d'assurer la survivance de leur enfant en les confiant à des hôpitaux, et donc en souci de l'enfance, et ont pour conséquence la création de structures hospitalières spécialisées dans l'accueil des enfants abandonnés. Cette pratique est décrite dans les contes des Perrault ou des frères Grimm, où les parents abandonnent les enfants dans la forêt, poussés par la misère.
Le lien que la mère entretient avec le nourrisson est manifeste de la représentation que celle-ci se fait de son rôle et de l'évolution de la place de l'enfant au sein de la famille. Ainsi, une certaine partie des mères s'est mise à allaiter sur les recommandations des Lumières et notamment de Rousseau. La question de l'allaitement et des soins apportés aux enfants est sans cesse remaniée et les réponses qui y sont données fluctuent à mesure des modes. Ainsi, il y a quelques décennies, l'allaitement n'était plus préconisé pour redevenir aujourd'hui une pratique valorisée, jugée bénéfique pour l'enfant Suite à un long processus commencé au 19e siècle, la maternité est aujourd'hui, en Occident tout du moins, très médicalisée. Un nombre considérable d'ouvrages scientifiques et de vulgarisations traitent spécifiquement de la grossesse. Les informations de toutes parts se succèdent pour dire à la mère ce qu'elle doit faire pendant sa grossesse et avec son enfant. L'enfant est donc devenu l'objet d'une préoccupation avant même qu'il, elle, ne soit né. Les enfants sont également objets d'un souci médical particulier face au taux de mortalité infantile très élevé. Développement des maternités, stérilisation des tétines, utilisation de lait bouilli, accent mis sur l'hygiène, etc.
Dans les milieux aristocrates et bourgeois, l'enfant commence à acquérir un statut spécifique, comme en témoigne le développement des tenues enfantines. Au XIXe siècle, dans les milieux urbains aisés, un espace spécifique à l'enfant commence à être mis en place, visant, dans la logique hygiéniste de l'époque, à préserver l'enfant de l'intimité de ses parents. Cette nouvelle disposition de l'habitat rend compte d'une séparation entre l'univers de l'adulte et celui de l'enfant et de l'acquisition par l'enfant d'un espace privé symbolique.
La thématique du droit de l'enfant, si elle fait des apparitions régulières au cours des siècles, se cristallise au XXe siècle et connaît ces dernières décennies un développement conséquent. Le premier texte international appelé « Déclaration de Genève » qui reconnaît un statut spécifique à l'enfant. Il sera confirmé par la création en 1947 de l'UNICEF, Fonds des Nations Unies des Secours d'Urgence à l'Enfant, et l'adoption par l'Assemblée Générale des Nations Unies en 1959 de la Déclaration des Droits de l'Enfant, jusqu'à la Convention Internationale des Droits de l'Enfant. Proclamée en 1989, ces différents textes affirment la spécificité de l'enfant qui, en raison de son manque de maturité physique et intellectuelle, a besoin d'une protection spéciale.
Sous l'influence des sciences humaines, et notamment de la sainte mise pour Sigmund Freud et la psychanalyse sur la spécificité de l'enfance, s'accentue la consécration du statut de l'enfant. Il n'est plus conçu comme passif, mais l'accent est mis sur ses capacités de compréhension et d'apprentissage. Il devient sujet, objet de recherche, champ d'investigation scientifique. Des disciplines sont créées pour lesquelles il a une place centrale, psychologique de développement, pédiatrie, sciences de l'éducation et dans une moindre mesure sociologie de la famille. Au XXe siècle, il est donc acquis que l'enfant a un statut particulier et se développe nombre des discours qui lui sont réservés. Comment l'éduquer, le la soigner, comment l'aider à se développer. L'apparition de nombreuses revues de vulgarisation concourront à entériner cette attention spécifique portée à l'enfant.
La notion de bientraitance vient parachever ce nouveau statut de l'enfant. L'orientation amorcée par la reconnaissance internationale des droits de l'enfant amène à la prise en considération de ses spécificités, notamment psychologiques, et la mise en place de structures adaptées à des enfants subissant des mauvais traitements. Cependant, jusqu'à la publication d'un rapport national sur l'enfance maltraitée en 1992, le traité de la maltraitance restait réservé aux professionnels du domaine de la santé. À partir de cette date, nous pouvons donc considérer que cette question est devenue une préoccupation politique. Au même moment, au début des années 1990, a émergé la notion de bientraitance. Bientraiter, c'est respecter la continuité du développement de l'enfant dans son histoire et l'aider à construire son identité dans la sécurité affective et l'épanouissement de toutes ses compétences.
Monde de l'adulte, monde de l'enfant. Monde du jeu, monde des responsabilités. L'enfance, cette heureuse et brève période de l'existence où l'on a tout juste assez de conscience pour savourer la joie d'être et d'inconscience pour ignorer les difficultés de la vie. André Duval. La différenciation entre enfant et adulte se traduit par la représentation de deux univers distincts. Ainsi, à l'enfant est associé le monde du jeu, du loisir, du plaisir immédiat, comme en témoigne la multitude d'activités disponibles pour enfants, poupées, legos, jeux de cartes, jeux vidéo, activités ludiques à MGC, parcs d'attractions, piscines, etc. L'univers de l'enfance est celui de l'insouciance, de la contrainte minimale. L'enfant fait ce qu'il a envie, sans réfléchir aux conséquences, me dit Émilie, 17 ans, confirmée dans ses propos par Valérie, 12 ans. Quand on est enfant, on peut encore faire plein de bêtises. Le seul entretien que j'ai réalisé avec un enfant très jeune et à cet égard assez révélateur. En effet, quand je lui ai demandé ce qu'était un ou une enfant, il m'a répondu en plaçant lui-même l'enfant en opposition à l'adulte, en marquant directement la distinction. les enfants, ils vont au lit plus tôt que les adultes. Les adultes, ils font des choses plus difficiles que les enfants. À l'opposition, le monde des adultes est celui du sérieux. Un adulte, il doit avoir quand même pas mal de responsabilités. Il doit s'occuper, il doit travailler. Il faut qu'il paye des choses, les courses, les loyers, l'électricité. Et ça, ça fait pas trop envie, m'explique Valérie, 12 ans. Le monde de l'adulte est représenté d'une manière peu attractive. On peut même plus jouer, me dit Marie, 8 ans. Mais le monde de l'enfant est également caractérisé par l'école, l'apprentissage, la découverte, mais sous une forme un peu légère, par contraste au monde de l'adulte. C'est l'âge où on apprend la vie, plus que des connaissances au sens strict. Dans ce système de représentation, l'enfant est vu comme insouciant et insouciante, ne se rendait pas réellement compte des réalités du monde, dû une attention particulière qui doit lui être apportée pour parer à sa naïveté et à son responsabilité.
Langue des adultes, langue des enfants. Dans Les mots et les femmes, étude de sociolinguistique portant sur le genre, M. Jagello distingue entre langue des hommes et langue des femmes, soulignant que la manière de parler est différenciée selon le genre. Les hommes respectent moins les tabous verbaux, usent d'un langage plus grossier, tandis que les femmes se montrent plus polies. Ceci nous renvoie au statut des gros mots chez l'enfant, bien souvent règle d'or des parents, comme des enseignants. « C'est pas joli, des choses comme ça dans la bouche d'une petite fille », disait une dame à une fillette au parc. La fillette avait dit « merde ». Marc, 8 ans, m'expliquait qu'il y avait une tirelire chez lui où tout le monde devait mettre 10 centimes quand il, elle, disait un gros mot. Elle a été installée à la base, principalement par rapport à son grand frère qui semblait en dire beaucoup. Il remarquait que ses parents mettaient beaucoup plus souvent leur argent dans la tirelire que les enfants. Alors qu'ils le font même pas à chaque fois. La majorité des parents insistent particulièrement sur ce point, et tous les adultes, avec sous la question de la politesse. Au final, les enfants ont effectivement un langage moins grossier que les adultes, au point que ce sont bien souvent eux, elles, qui font remarquer aux adultes leurs écarts de vocabulaire. Mon cousin de 6 ans me reprend constamment à grand renfort de « c'est pas bien de dire ça, t'as dit un gros mot ». Toujours dans le même ordre d'idée, il faut souligner la différenciation des sujets de conversation, certains thèmes étant reconnus comme l'apanage des adultes, politique, économie et actualité en général. Fréquemment, les enfants s'entendent dire « c'est une discussion de grandes personnes, sérieuse ». Pour les plus petits, l'argument invoqué est qu'ils, elles, ne comprennent pas, ne maîtrisent pas ce type de notion abstraite. Mais en même temps, comment le pourraient-ils, elles, puisqu'on ne veut pas leur expliquer ? Pour les adolescents, c'est cette raison est plus difficile à invoquer au vu des enseignements en histoire géographique et donc géopolitique. Éducation civique, juridique et sociale, sciences économiques et sociales pour certains. J'ai pourtant constaté à l'occasion de repas de famille que des jeunes de 16 et 17 ans étaient écartés des conversations portant sur les élections présidentielles à venir. Toutes leurs tentatives de prise de parole ont été avortées, interruptions, absence de réponse. Moi-même, je n'ai un droit de parole limité lors des conversations lancées par mon grand-père, sur des thématiques telles que les conflits armés ou l'immigration, qui, depuis peu. Les sujets de conversation des enfants semblent ne devoir porter que sur des domaines mineurs, voire, pour les petits, les enfants quasiment uniquement sur leurs expériences vécues, excluant tout sujet d'abstraction ou de réflexion. S'ils, elles, peuvent raconter leur journée, passer avec des amis, ou ce qu'ils, elles, ont appris à l'école. Il semble qu'on leur reconnaisse difficilement un avis sur une chose, ne les concernant pas directement. Qu'est-ce que t'en sais ?
Eh bon, merci. On vous laisse cette partie-là et on se revoit la prochaine semaine pour continuer cette brochure. Ciao à tout le monde. Ciao.